êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons tous les jours grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, parce que quand je regarde le peu de temps qui s'est écoulé depuis qu'on a commencé, tout ce que le Seigneur fait, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Et je vous invite tous les jours à en faire autant. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Parce que votre fidélité dans les petites choses est ce qui vous qualifie pour les grandes avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du réflexe d'aller à Jésus. Nous allons parler du réflexe d'aller à Jésus. Je ne parle pas du fait de donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, je veux parler du fait que qu'on ait donné sa vie à Jésus ou pas, mais surtout quand on l'a donné, ce n'est pas tout. Il faut ensuite, dans les plus petits détails de la vie, dans les moindres circonstances de la vie, avoir le réflexe d'aller à Jésus. Je rappelle que nous sommes au Centre Jésus pour réussir. Et ce nom-là en lui-même résume notre mission que nous ne devons jamais oublier. C'est notre appel, c'est notre vocation, c'est ce que nous ne devons jamais perdre de vue. Nous n'avons pas vocation à être une église de plus parce qu'il n'y en avait pas assez. Nous avons vocation à être une institution qui, de manière efficace, avec excellence, doit aider les gens à réussir à être comme Jésus veut qu'ils soient. Dieu veut que les gens soient sauvés, sauvés pour l'éternité, mais aussi qu'ils aient une vie agréable, une vie de paix, une vie de joie, une vie d'abondance sur la terre. Et aussi pour l'éternité. Mais tout cela, Dieu nous l'a déjà donné. Il a déjà tout accompli. Mais tout le monde ne le voit pas, n'en jouit pas encore. Certains ne savent même pas que cela est possible. D'autres savent que c'est possible et en parlent tout le temps, mais ne le touchent jamais, ne le vivent jamais. Il y a ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous prions pour eux, nous allons continuer de travailler pour qu'ils reçoivent le salut. Mais il y a trop de gens qui ont reçu Jésus, qui vont aux églises, mais qui n'ont jamais goûté aux délices du royaume des cieux. Et Le royaume des cieux doit être un endroit où on jouit de la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours. Nous devons nous sentir dans la maison de Dieu tous les jours. Mais comment on peut être dans la maison de Dieu et avoir la vie que nous avons là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'insiste pour dire que le chrétien n'est pas celui qui va régulièrement à la messe les dimanches. Dieu s'en fout. Nulle part dans la Bible vous n'allez voir quelque part où Jésus a dit d'aller à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas mauvais. C'est même très bon parce qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quand nous sommes deux ou trois réunis en son nom, le Seigneur est là au milieu de nous plus puissamment. Nous sommes les membres d'un même corps et c'est ensemble que la bénédiction descendra sur nous. Mais si nous sommes un corps toujours réunis en bonne forme théorique, mais qui ne produit aucun résultat, est-ce que ça sert à quelque chose? Le corps d'une personne lui sert à faire des choses, lui sert à exécuter sa volonté. Quand je pense quelque chose dans ma tête, quand je veux quelque chose, quand j'ai envie de quelque chose, mon corps exécute ce que je veux. C'est à ça que sert un corps. Une personne qui a une tête pour penser, mais dont le corps ne fait rien, est ce qu'on appelle un paralysé, un hémiplégique. Et quand c'est comme ça, il préfère mourir que de vivre à penser, mais que son corps ne fasse rien. Mais Jésus est la tête de l'église. L'église est le corps de Christ. Si Jésus veut sauver les gens, s'il veut moissonner les âmes, s'il veut bénir les gens, s'il veut que les gens soient en bonne santé et prospèrent à tous égards, et que son corps ne bouge pas, et que toi et moi on ne bouge pas, Jésus est hémiplégique, il est paralysé. Quand les gens disent où est Dieu alors qu'il y a des problèmes, ils devraient dire où est le corps de Dieu alors qu'il y a des problèmes. C'est pas ta tête qui fait ce que tu fais. Ta tête pense. Ta tête gère le corps. Il donne la vie au corps. Il synchronise le corps. Mais c'est pas lui qui fait. C'est le corps qui fait. Christ fait son rôle. Il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné l'onction. Il nous a donné sa parole. Le ministère des anges à notre service. Mais si nous refusons d'agir, qu'est-ce que Jésus peut faire? Même vous qui êtes ici, vous auriez été beaucoup plus bénis si les autres chrétiens étaient de meilleurs organes du corps de Jésus. Dieu ne fait rien sans en informer ses prophètes. Si les gens qui ont un appel prophétique faisaient leur boulot, aucun malheur ne devrait arriver à aucun d'entre nous ici avant que ça n'ait été prophétisé. Et quand on a prophétisé quelque chose, on aurait le pouvoir de l'annuler par la parole. Dieu merci, ça se fait, mais je suis sûr que ça peut se faire mieux. Les intercesseurs, les évangélistes, regardez la zone où nous sommes. Regardez le nombre de milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent, qui sont malades, qui ont faim, qui sont ainsi de suite. Quand tu leur parles de Jésus, ils te disent qu'ils ont des problèmes d'argent, c'est pas de Jésus qu'ils ont besoin. C'est comme un enfant, on lui dit viens on va aller voir ta maman à la cuisine, il dit non, j'ai trop faim, c'est pas le moment d'aller à la cuisine. Mais si tu as faim, où est-ce qu'il faut aller si ce n'est pas la cuisine?
Vous voyez que si ce n'est pas l'ignorance, est-ce qu'un homme auquel on parle de Jésus peut dire qu'il a des problèmes, donc il n'a pas le temps pour Jésus? Au lieu de dire, comme j'ai des problèmes, courons à Jésus.
Mais
c'est comme ça, pourquoi? Parce que le corps de Christ que nous formons n'a pas fait son boulot, n'a pas fait son travail. Les gens ne voient pas Christ en nous. Donc ils n'ont pas confiance en Christ. Et nous-mêmes, pour la plupart, nous n'avons pas confiance en Christ. Nous parlons de Christ. Nous prions. Nous jeûnons. Mais nous n'avons pas confiance en Christ. Parce que si nous avions confiance en Christ, c'est pas comme ça que nous vivrions. Et ce n'est pas ces fruits-là que nous porterions. Je rends grâce à Dieu parce que nous portons déjà beaucoup de fruits. Mais c'est insignifiant par rapport à ce qu'il attend de nous faire porter. Il veut en faire tellement, tellement plus avec nous. Mais il ne va pas à la vitesse qu'il veut. Parce que nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne lui faisons pas confiance. Et je vais pour vous l'expliquer. Remonter jusqu'au jardin d'Éden. Mon message aujourd'hui, c'est le réflexe de retourner à Christ. Le réflexe, c'est quoi? C'est la première chose que tu fais. Sans même y réfléchir, sans même te rendre compte quand une situation se présente. Quand un doigt vient vers ton œil, même quand la poussière ou bien quelque chose, même le savon, tu te laves, veut venir vers ton œil, avant même que tu n'aies su que le savon arrivait là, par réflexe, l'œil est déjà fermé. Même un grain de poussière invisible, quand ça s'approche, toi, mais tu ne sais pas que tu s'es approché, mais ton œil a déjà déclenché le réflexe de le fermer. Quand dans l'air il y a des choses un peu toxiques, tu ne vois pas, mais dès que ton nez sent, tu commences à éternuer, c'est-à-dire l'organisme veut sortir immédiatement ce qui rentre. On appelle ça des réflexes. D'ailleurs, on ne réfléchit plus. C'est un réflexe. C'est-à-dire que si le corps fonctionne bien, à certaines stimuli, il réagit d'une manière automatique. Si tu te portes bien. Vous allez voir que quand les docteurs, les pédiatres veulent voir si les bébés vont bien, ils testent certains réflexes pour voir si en faisant certaines choses, le bébé réagit normalement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit, c'est quelque chose qu'on fait avant même de réfléchir. La question est la suivante. Quel problème se pose à toi dans ta vie? Quel est ton réflexe? Quand on t'annonce que ton enfant est malade, quel est ton réflexe? Ton réflexe, c'est d'appeler le pédiatre? Ou bien c'est d'aller voir le charlatan? Ou bien c'est d'aller chercher des feuilles au marché? Ou bien d'aller à la pharmacie? Quel est ton réflexe? Parce que ton réflexe révèle qui tu es. Le réflexe rentre dans ta nature, c'est plus contrôlé, c'est automatique. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont chrétiens, mais avec les réflexes des païens. Si Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, si tout a été créé par lui, pour lui et en lui, si c'est en lui que sont logés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, si en tant que chrétien ce n'est plus nous qui vivons mais lui qui vit en nous, si nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en lui, si c'est lui qui par son sang nous a racheté de la mort et du péché, s'il est la parole et que rien n'a jamais été fait sans la parole et que tout a été fait par la parole, S'il est le chemin, où veux-tu aller sans le chemin? S'il est la vérité, que veux-tu comprendre hors de la vérité? S'il est la vie, de quoi veux-tu jouir dans cette vie sans lui? Mais tout commence par Jésus. Ce jour en Jésus. Et se termine par Jésus. Tout a été créé par lui. Pour lui et en lui. Le réflexe de celui qui est spirituellement vivant. Le réflexe de l'enfant de Dieu. C'est donc Christ. Ce n'est pas de réfléchir. Ce n'est pas le docteur. Si tu m'apprends que ma maison est en train de brûler, la plupart des gens vont dire, est-ce que tu as appelé les pompiers? Moi, je vais te demander, est-ce que tu as prié et laisse-moi prier d'abord. Quand j'aurai fini de prier, je vais appeler les pompiers. Quand tu vas appeler les pompiers, il faut d'abord que tu leur parles. Le temps de s'habiller, de rentrer dans leur voiture, de trouver ta maison. Et se déplacer pour être dans ta maison. Si tu as une maison en paille ou en badé, c'est sûr que la maison est finie depuis longtemps. Mais comment tu peux connaître Christ qui est partout en même temps, qui peut tout, qui en un tiers peut déployer une légion d'anges pour éteindre ton feu? Tu le laisses et tu appelles les pompiers d'abord. Est-ce que c'est un réflexe sage? On dit que ton enfant a piqué crise et tu dis, est-ce qu'ils vont appeler le docteur? Est-ce que c'est le docteur qui doit appeler? Le docteur est une personne qui a été créée par Dieu. Lui, il n'a pas fait de grâce pour lui. Il va venir, il va te dire qu'il va baisser d'abord la fièvre. Après, il va aller faire analyse. C'est au bout de quelques heures, de quelques jours qu'on va te dire de quoi ton enfant souffre. Comment tu peux connaître Christ? Celui qui donne le souffle de vie. Celui qui est partout. Celui qui réveille les morts. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Il n'a pas de chef de protocole. Tu n'as pas besoin de crédit. Tu le laisses, tu vas chercher du crédit pour appeler le docteur humain. Est-ce que c'est logique? Je ne dis pas de ne pas aller chez le docteur. Je ne dis pas de ne pas aller chez les sapeurs-pompiers. Mais est-ce que ça doit passer avant le réflexe d'appeler Christ? Regardez bien. Toute notre vie ce jour-là. Quelle est la première chose que vous faites face au défi? Il y a des gens qui pleurent. Au moins le problème, ils pleurent. Bon, ceux qui ne pleurent pas se plaignent, mais c'est la même chose. Il y a des gens, au moins le problème, ils ne peuvent plus manger. Et puis bon, c'est comme ça, ils maigrissent, ils dépriment parce qu'il y a problème. Il y a des gens, au moins le problème, leur cœur commence à battre. On dirait que leur cœur va sortir de leur poitrine. Ça, c'est leur réflexe à eux. La panique. Ils deviennent bêtes dès qu'il y a un problème. Il y a des gens comme ça. Ils ont tellement peur que leur problème devienne bête. Ils ne peuvent plus le
faire.
Et ça, c'est des réflexes. Il n'y a pas que la personne décide. Quand tu lui poses un problème, il ne sait pas quand est-ce qu'il se trouve dans cet état-là. Il y a des gens au moins de problème, ils ne peuvent plus dormir. Il y a des gens au moins de problème, ils vont appeler le charlatan. Qui a quelque chose, il faut leur faire en même temps la consultation pour leur dire qui a lancé le missile, qui a de vouloir les tuer.
Consultation est quand tu es mais les latins, il y a des gens qui vont parler pour allo allo, j'écoute, monsieur Tchengbe, à Ono, on va nous y mourir. Pour me nommer, pour me nommer, je me nommer, pour qui je me nommer, pour bien finir, nous qui je vais pour.
Il y a des gens au moins de problème, ils vont sortir leur chapelet, commencer à réciter la même chose 10 fois 10 fois 10 fois 10. En espérant qu'à force de répéter la même chose à Dieu, il va finir par faire quelque chose. Est-ce Est-ce que ce sont de bons réflexes? Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, leur réflexe est de devenir agressif contre les autres. Ils commencent à insulter les autres, à attaquer les autres. Non, ils se défoulent sur les autres comme ils ne peuvent pas se défouler sur le problème. Est-ce que c'est ça le bon réflexe? Il y a des parents qui ont des problèmes, ils se défoulent sur leurs pauvres enfants. Il y a des enfants qui ont des problèmes, ah, les élèves sont foutus. Ils vont se défouler sur le frère, c'est qu'ils ne peuvent pas réagir.
Les parents n'ont pas de pitié, on les bat. Et à haut et caca, à nous, alors, tout est là.
Si c'est une sainte femme, il y en a qui se défoulent sur les femmes enceintes qui sont en travail, on lève, on les insulte, on les méprise, comme si elles n'allaient jamais accoucher. Est-ce que c'est ça le bon réflexe, ça, ce problème?
Vigile, Toto, vigile, mais t'en insulte, ah oui. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, ils commencent à chercher quel cerveau de gaïman ils vont utiliser, à qui ils vont escroquer de l'argent. Ça, c'est leur réflexe à eux, face au premier problème d'argent. Rien de tout cela n'est le bon réflexe. Je dirais donc que nous devons remonter au jardin des
terres.
Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin. Il avait dans le jardin deux arbres. Et je vous rappelle qu'un arbre, ça porte des fruits. Un arbre a des racines, a une nature et porte des fruits. Et conformément à la prophétie de Dieu, chaque arbre donne des fruits selon son espèce et rien que selon son espèce. Il y avait donc deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à l'homme de tout manger dans le jardin, donc y compris l'arbre de la vie, mais de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme, vous le lirez dans Genèse, que s'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Quand vous allez lire, faites attention à ceci. Dieu n'a pas dit que si l'homme mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas dit qu'il va le tuer. Il a dit il mourra. C'est-à-dire que la mort qui suivra le fait de manger n'est pas une action volontaire de Dieu. C'est une conséquence qui découle du fruit qui a été mangé. Et il y avait l'arbre de la vie. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont morts et croient qu'ils sont vivants. J'ai moi-même fait longtemps cette erreur. Et c'est cette erreur qui fait que certains disent, mais il y a des gens qui sont des pécheurs, ils sont des païens, ils jouissent mieux de la vie que nous.
C'est faux.
Dieu m'a répondu l'année dernière en me démontrant clairement que nous confondons la vie et l'existence. Beaucoup de gens existent sans vivre. Alors que le but de l'existence, c'est de vivre. Un grand arbre peut être debout, desséché. En fait, c'est un fagot de bois, on a juste essayé de ne pas le mettre à terre. L'arbre là ne vit plus, il n'a plus de serre, il n'a plus de feu, il n'a plus rien. Ce n'est pas un arbre qui vit, mais il existe toujours.
Mais
l'arbre qui vit un magazine, le CO2 produit de l'oxygène, donne des fruits, donne des feuilles qui sont des remèdes, donne des racines qu'on peut utiliser, donne de l'ombre. Un arbre qui vit, qui produit des fruits, qui a des résultats.
Et
quand tu coupes un arbre qui vit, si tu n'as pas touché sa racine,
il n'y a pas ça.
Mais si tu coupes un arbre qui est mort, il ne peut pas bouger, il est déjà mort. De la même manière, le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui existe. Les païens ne vivent pas, ils existent. Si Jésus est la vie, c'est que personne ne peut avoir la vraie vie sans Jésus.
C'est-à-dire,
personne ne peut jouir de la vie.
Mais
on peut exister, on peut avoir l'existence, mais on ne peut pas jouir de la vie sans
Christ.
Vous allez voir que ceux qui n'ont pas Christ, même quand ils arrivent à amasser des biens matériels, ils n'en jouissent pas, ils ont les biens, mais les biens ne leur donnent pas le bonheur que c'était censé leur donner. Ils ont des maîtresses, aucune ne les aime. Ils ont des maisons, aucun ne leur donne la paix. Ils ont des lits, aucun ne leur donne le sommeil. Ils ont des médicaments, mais ils ne se portent jamais bien. Ils ont des enfants, personne ne les aime, les respecte, les appelle papa. Finalement, ils sont obligés de vendre leurs biens parce qu'il n'y a même pas parmi leurs enfants quelqu'un qui accepte l'héritage. Quand quelqu'un est comme ça, les païens vont dire qu'il est heureux. Il ne vit pas, il existe, il est mort depuis longtemps. Il n'y a que la tombe qui attend de récupérer son corps. Lui-même, il est mort depuis longtemps. Dieu n'a pas créé l'homme pour exister en souffrant et en cherchant désespérément à jouir de la vie. Il nous a créé pour que nous ayons la vie, que nous jouissions avec abondance de la vie.
Et
il n'y a qu'en Christ que vous pouvez jouir de la vie facilement, sans effort et sans que ce ne soit suivi d'aucun chagrin.
Christ
parce qu'il est la vie. Donc l'arbre de la vie qui avait dans le jardin d'Éden, c'était déjà
Christ.
Et ceux qui mangent du fruit de cet arbre-là ont la vie, comme Jésus dit, que celui qui mange de son sang et de sa chair aura la vie, parce qu'il est la vie.
Bon, mais doit tenir de Jésus Christ, ouais, il doit y bon.
Nous nous moquons souvent d'Adam et Ève. Mais tous autant que nous sommes jusqu'à aujourd'hui, nous faisons ce qu'ils ont fait. Les gens disent, mais ils ont été bêtes aussi. Tu as dit de ne pas manger, pourquoi ils ont mangé? Ils ont créé des problèmes. Toi aussi tu te crées des problèmes parce que tu n'as pas arrêté de faire ce qu'ils font. De même qu'aujourd'hui les gens ont Jésus la vie, mais s'en foutent, le méprisent, ne le regardent pas et courent derrière mille autres choses pour s'en sortir alors que ce n'est que souffrance. De la même manière, ils avaient l'arbre de la vie qui devait leur donner le bonheur, l'éternité. Ils ont laissé ça. Ils ont préféré manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Au lieu de manger bêtement le fruit de la vie et de jouir de la vie de manière automatique, comme un logiciel tourne ou comme un ordinateur tourne sans effort, au lieu de demeurer bêtement dans la vie et de jouir de la vie sans aucun effort, Satan leur a dit et nous a dit qu'il y a une autre solution qui est meilleure. Qui peuvent essayer par eux-mêmes d'analyser chaque chose est décidé par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le fruit de l'arbre de la connaissance par l'homme lui-même de ce qui est bien ou mal. Il a dit que le de se soumettre au conseil de Dieu, il pouvait faire comme Dieu et analyser les choses même et décider ce qui est bon à faire.
Et
la parole de Dieu nous dit que quand ils ont mangé de ce fruit là, leurs intelligences se sont ouvertes et ils se sont vus nus. Pendant longtemps, j'avoue que moi-même j'ai toujours demandé à Dieu, mais en quoi l'intelligence est encore un problème qui vient d'un péché? L'intelligence, c'est la capacité, quand on a regardé les faits, à les analyser et à tirer des conséquences ou les bonnes conclusions sur ce qu'il faut faire. Et donc, quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui rapidement peut comprendre les situations et décider intelligemment quoi faire pour s'en sortir. Et l'un des plus beaux compliments qu'on peut faire à un homme, c'est de dire qu'il est intelligent. Mais en réalité, ce compliment-là relève de Satan se moque royalement de nous parce que nous sommes bêtes de nous sanctifier d'être intelligents. Je vous scandalise, hein, mais je vais vous expliquer. S'il est vrai que c'est théoriquement bon de voir les choses, de comprendre et de tirer les conclusions, est-ce que toi tu peux vraiment voir ce qu'il faudrait voir pour tirer une bonne conclusion? On dit qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Est-ce que l'homme peut bien poser un problème? Tu vois quelqu'un, il rit, tu jures que c'est ton meilleur ami, c'est lui qui programme ta mort. Toi, là, est-ce que tu peux réfléchir à quelque chose et tirer une conclusion intéressante? Quelqu'un te dit je t'aime, tu es belle, il te donne quelques cadeaux, tu es prêt à jurer que c'est le mari que Dieu t'a envoyé. Mais après il devient soweto dans ton couple. Est-ce que toi là tu peux réfléchir à quelque chose? La réalité, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que Dieu a conçu l'homme avec des facultés très limitées. On ne peut même pas voir au-delà de peut-être 100 mètres, maximum 1 km quand le champ est dégagé. Oh, il y a une infinité. Il faut parfois prendre des loupes pour voir plus gros, des microscopes. Nos yeux ne sont pas illimités en capacité. Le chat et le chien voient par exemple mieux que l'homme dans certaines circonstances. Quand par exemple on utilise des ultrasons, le chien entend, l'homme n'entend pas. Donc ton oreille n'entend même pas le millième de bruit qui est autour de toi. Pourquoi on dit que les chiens sentent quand quelqu'un va mourir, toi tu ne le sens pas? Parce que le chien a des facultés que toi tu n'as pas. Bref, l'homme n'a pas dans sa constitution physique les éléments qu'il lui faut même pour comprendre la réalité, jusqu'à utiliser son intelligence pour tirer des conclusions. Donc même si ton cerveau était très fort, tu ne peux jamais avoir la matière première pour réfléchir. Donc tout le reste c'est de l'orgueil, c'est de la foutaise. Aucune bonne réflexion ne peut sortir de la tête d'un homme. C'est pour ça que la Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. L'homme a toujours l'impression que ce qu'il veut faire là, c'est évident, c'est la meilleure chose. Mais ça se termine toujours mal, il se casse toujours les dents dessus. C'est un grave péché que de compter sur notre raisonnement au lieu de compter sur ce que Dieu a dit. Dieu a tout créé, il sait tout, il peut tout, il était là depuis le début et il sera là à la fin. Comment lui peut parler et toi tu dis que d'après tes réflexions, ce que tu sais, ce que tu crois là est meilleur que ce que Dieu qui a tout créé, qui fait tout, qui est partout, qui contrôle tout, a dit. Au nom de quoi toi tu peux penser ça?
Edie, beto do ko jokonu wire. Ma ude tu nu bide dak bi odero nu konu nu bide jote nu konu ajote nu koniya. Ede gbe boro lewe na do gbo ko beto lo jele e o le li le mi le to me mi mo le. Do te utu e aya ti yan ji balavo. Ba be do re fu we si le nu bi ko foro gbe be si ati ji fine ke we de pomo ko fo wa kro ji balavo. E fo wa.
C'est lui qui te réveille. Quand tu dors, tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton corps. Quand tu manges, tu ne sais même pas ce qui se passe jusqu'à ce que ça soit après au WC. Tu ne sais pas comment ton corps fonctionne. Il faut que tu piques une crise pour te rendre compte que Dieu travaille très bien. Les autres jours, tu n'as pas piqué de crise cardiaque.
Maintenant,
en résumé, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez demander à copier le message que nous avons donné sur l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître ce que nous sommes, à savoir rien. Nous sommes poussière, nous mourrons poussière. Il n'y a rien dans la poussière qui peut faire le malin et discuter avec Dieu.
Ce n'est
pas se faire petit parce qu'on était grec, qu'on est humble. C'est se faire ce qu'on est, à savoir rien. À l'instant où Dieu te retire le souffle de vie là, tu vas durcir, tu vas pourrir, les mouches viendront, les vers viendront. Au bout d'un mois, tu n'es pas mieux que le mouton que la voiture a écrasé. Pourquoi tu fais malin?
Eddie, mais non, il faut que tu aies un peu de temps. Hofore, anomotoka, sade anasie, asion gbi, eyin gbi o san supo na wa supo wa bibi na wa bibi wa wa fu na wa wa fu wa o si ton si ga ton hofo.
Notre vie vient de Dieu et ne tient qu'à Dieu. Pourquoi nous vivons comme si notre vie tenait à nous?
Pesan mi to te do ma ma wa e lo ka don nu pesan mi to bi pro te bro iwe. Eyin mi de suno le abete ka so te ba mi jona izo do ma.
Dieu dit, passe du temps dans ma présence, je vais te bénir. Tu dis que toi, tu penses qu'il y a des choses tellement plus importantes à faire que tu n'as pas du temps à passer dans sa présence. Que quand tu auras fini toutes les choses du monde, tu vas passer du temps dans sa présence, lui qui te réveille. Est-ce que c'est normal entre nous là? Est-ce que nous ne sommes pas tous ensemble un peu bêtes?
Un peu, mais beaucoup. Donc, maouo.
C'est pas que j'insulte les gens, je suis dedans. Mais il n'y a pas de mots en français pour dire ce que nous sommes. C'est bête.
Mime biwe hon. L'homme, mi jo maouo to. Nobody made a sooner meet you, not gun to me, let's see. Oh, when I blow only, when I want only. My work I made a canton, which I've been told by me every way. Nimmy don't catch out of me, they may be better.
C'est comme quelqu'un qui pense avoir dit, je dois aller à Natitengu, je n'ai pas de temps. On dit, mais il n'y a pas de sens d'avoir dit, c'est pas grave, je suis pressé, je vais jusqu'à Natitengu, je n'ai pas le temps d'aller à la station. Il va où?
Et tu dis, mais les titres, ils nous ont tombé, mais vous pouvez filer. Bon, ça, c'est le roi, mais pourquoi?
Alors que l'homme se réveille le matin, il laisse Dieu qui le fait vivre, qui le fait respirer, qui le protège, qui fait tourner son cerveau. Même pour faire pas là, c'est que Dieu a permis à tes yeux de voir. Il faut demander aux gens. Des fois, tu as subitement une crise hypoglycémique, tu ne vois plus rien, tu as le vertige, tu te couches. Donc si Dieu permet que tu fasses un pas et que tu n'es pas couché, c'est qu'il a voulu. Mais tu dis que tu as des choses tellement importantes à faire que tu ne veux pas lui parler avant de quitter ta maison. Et tu penses que tu es meilleur que le chauffeur qui ne veut pas aller à la station parce qu'il va jusqu'à la tête.
Ma ou ni ça, ou mi tole kemi. Non, ma ou de fond mi sansa. Le bon mi fond mi tole hon. Ma ou de zon mi de aforopo. Non, nous a de aforopo. J'insiste
pour dire que nous le faisons tous. Moi y compris. Hélas, le fait de le savoir ne suffit pas à arrêter de le faire. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que nous faisons le mal que nous ne voulons pas, n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons. Pourquoi? Parce que je vous le dis toujours, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit ou par le diable. Même si tu as donné ta vie à Jésus, quand tu te comportes comme ça, c'est que Satan vient encore de temps en temps prendre le volant de ta voiture. Et tu dois communier plus intimement avec le Saint-Esprit pour qu'il te conduise dans sa présence. Tu ne dois pas aller dans le monde combattre pour avoir des choses qui te suffiraient de t'asseoir au pied de Jésus et du Saint-Esprit pour avoir en dormant. C'était l'exemple de Marthe et de Marie-Madeleine. Jésus arrive dans leur maison pour manger. L'une a le réflexe de courir à la cuisine comme ma femme préparait faire la cuisine du matin au soir pour recevoir Jésus. Et l'autre s'assoit et écoute Jésus, Jésus parle. Et bavardait avec Jésus, dégustait Jésus, recevait des révélations, bavardait avec Dieu. À un moment, ça énerve la personne qui a cuisiné. Mais ça va pas chez toi. Le maître est là, il doit manger. Et au lieu de venir, on va courir à la cuisine. Toi qui es là en train de l'écouter. Jésus dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. Tu vas faire la cuisine tous les jours de ta vie. Elle ne boit pas tous les jours pour m'écouter. Nous n'avons pas besoin de construire des solutions humaines. Face aux difficultés, allez prendre Jésus, mangez-le. Et le fruit de l'arbre de la vie, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est la Bible. Quel que soit ton problème, prends la Bible ou rappelle-toi la Bible. Qu'est-ce que Dieu en dit? Tu manges ça, tu vas dormir. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est pour ça, dans l'armure du chrétien, nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Quand Satan réclame les gens comme Pierre pour les cribler ou lance des flèches enflammées, nous devons prendre le bouclier de la foi. La foi, c'est la ferme assurance dans la parole de Dieu, dans la fiabilité de Dieu, dans l'omniprésence de Dieu, de dire Dieu est là, il a dit que fous le camp et tu vas dormir. Satan passera le temps à vous dire, mais tu vas être malade et si demain tu n'avais plus d'argent et si ta femme fait si fin. Si tu commences à raisonner avec Satan dans sa logique, c'est comme ça, frère Adam. Mais regardez, le fruit il est doux, non? Il n'est pas beau. Si tu commences à dire, laisse-moi voir, je vais voir. Dès que tu as dit, je vais voir, tu es foutu.
À voir, on croit tout est faux.
Il aurait fallu qu'elle dise, même si je vois que c'est beau, ce qui me paraît beau ne va pas faire mon bonheur. Telle voix paraît droite à un homme, mais son ici c'est la mort. Mais l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu a dit de ne pas manger, je ne mange pas. Si Eve avait répondu ça, on n'en serait pas là. Si vous répondez ça, Satan ne vous piégera jamais.
Eva o tun we o ko ye va o tun we o e na o do pe o ndojile e na bo te nyu de pe o mba nu e nyu de pe o ro si se we bi ku je nyu nu gbeto apo e o do e de bo pe we o
La parole est votre seule solution. Ça doit être votre réflexe. Même Jésus sur la terre, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, donc il était au sommet de la puissance. Après 40 jours de jeûne et 40 nuits de jeûne. La preuve que Satan n'a pas peur du jeûne. Satan n'a pas, n'est pas venu au début du jeûne. Il a attendu que les 40 jours et les 48 de jeûne de Jésus passent avant d'arriver. Il a laissé se charger à bloc avant de venir. Et maintenant, Satan utilise la parole de Dieu pour essayer de piéger la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu faite chair. La parole est debout comme ça. Et Satan vient le piéger avec la parole.
A tout piéger à mon donou mais voyons. Bon, ma ou de yik beyo de suo, le ba sienta. Le bozek beyo kpo, boudre mina do monina, mais kaya ouais.
Le réflexe de Jésus n'a pas été de réfléchir, mais de lui répliquer par la parole. Mais il est aussi écrit, mais il est écrit que, il est écrit que. À quel point es-tu capable d'avoir le réflexe de dire à Satan, dans ta tête, dans les circonstances, il est écrit que.
Bon, nous nous comptons, Jésus ton.
Satan te propose une option. Mange cette option là. Mange ce comportement là. Mange cette envie là. Tu dois répliquer non, je mange telle parole de Dieu qui a dit que. Oui, mais si tu fais ça, tu vas t'en sortir. Non, mais Dieu a dit que. Mais si tu fais ça, Dieu a dit que ça. Tu dois être tout le temps en train de manger le fruit de la vie. Quelle est la parole de Dieu en réplique à Satan qui te propose l'arbre de la connaissance du bien et du mal?
Ça
te permet de te défendre avec le bouclier de la foi.
Et
ça te permet aussi de contre-attaquer avec l'épée encore la parole. Le bouclier vient de la foi qui est liée à la parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole de Dieu et l'épée encore la parole. Donc l'âme défensive et l'âme offensive sont toutes des âmes de parole.
L'homme est allé à nous déminer. Bofouawa, alien de minazan, le bochami de bomana yi ope, le baton, le bikuyo, divide minazan, de bede minazan, et le bikuyo, et ya wafunu, de roi ope mauto.
Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent aujourd'hui. Ils jeûnent, ils prient, dansent, ils chantent, ils crient, ils escroquent. Mais ils n'aiment pas la parole.
Mido di ha, bono doué, le bono se. Le bon homme nous dit oui, bon homme parle à nous au-dessus, bon homme bégaye. Amen, nous pouvons pas voir donc nous pouvons béoto.
Dieu a tout fait par sa parole.
Nous, ma oublons nous dit oui, pour béoto.
Et pour que vous compreniez bien, il dit ça encore à l'envers, il dit, et il n'a rien fait sans sa parole.
Bon homme ministre, gamon, nous connu déjà où doit quoi, car on doit bonto. Ouais, il doit dire, et doit dire que ouais, mais semblons nous bien, couplons des que ouais, mais faux.
Et Jésus est cette parole.
Jésus a caïbé.
Tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Donc prier au nom de la parole. Et ne pas aimer la parole. Finalement, les gens disent oui, que ce sorcier-là, le feu tombe sur lui, meurt. Si tu connaissais la parole, tu ne peux jamais faire cette prière au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour invoquer le feu sur les gens. Si tu connaissais la parole, tu saurais que si Élie l'a fait dans un contexte, on y revenait. Quand les disciples de Jésus ont proposé qu'il invoque le feu sur les Samaritains, il a dit non, moi je ne suis pas venu pour invoquer le feu, je suis venu pour les sauver. Et tu ne ferais pas des veilles de prière pour invoquer le feu sur tous les ennemis, parce qu'il n'y aurait plus personne pour aller au ciel une fois que tous les païens seraient morts.
Là, Zoni Tchete.
J'ai écouté une émission la dernière fois à la radio. Quelqu'un enseignait. Oui, les sorciers, il y en a qui sont spécialistes. Ils vous transforment en poulet, ils vous transforment en poisson, ils vous mangent, ils boivent votre sang. On dirait que c'est un film de fiction qu'il a pas de raconter. Conclusion, les gens sortent de ces émissions en étant admiratifs du pouvoir de Satan et en oubliant la capacité de Dieu. Alors que l'évangile doit montrer aux gens à la puissance de Dieu pour qu'il puisse écraser Satan, pas qu'il l'ignore, mais qu'il sache que ce qui est en eux est plus grand que ce qui est dans le diable. Vous devez ne pas faire les combats avec la connaissance du bien et du mal. Cette intelligence qui s'est ouverte dans la Genèse est une mauvaise chose. C'est le fait de solliciter notre cerveau pour décider quoi faire au lieu d'obéir à Dieu pour décider quoi faire. Dieu dit malheur à celui qui se confie en un homme, que ce soit toi-même ou le vôtre homme. Si ta confiance est placée dans l'homme, prépare-toi à avoir des malheurs. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Même si c'est toi-même la personne dans laquelle tu as confiance, hein? Mais heureux celui dont l'espérance est en Dieu. Donc cette connaissance, cette intelligence qui consiste à ignorer Dieu pour réfléchir ne peut que te rendre nu. C'est-à-dire que quand on finit de faire tout ça là, on découvre subitement qu'on a échoué, on a honte, on se retrouve nu et ridicule après avoir été brillamment intelligent. Et ce mauvais réflexe se manifeste dans tous les domaines de notre
vie.
Et sont un fil conducteur permanent à travers toute la Bible. Quand vous prenez Abel et Caïn, Abel c'est celui qui est descendant. C'est vrai que leurs parents mangeaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le comportement d'Abel qui a été agréé par Dieu est le comportement de quelqu'un qui veut manger l'arbre de la vie. Il croit au sacrifice parce que Dieu dit que c'est le sacrifice qui sauve. Alors que Caïn, on dit, la Bible dit que lui, il était quelqu'un qui travaillait la terre. Il était un cultivateur. Et il a produit, pendant longtemps, j'ai dit, mais on a dit, il a produit beaucoup de récoltes de son champ. Et il a donné à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Pourquoi ça n'a pas plu à Dieu? Pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi si un cultivateur te présente ses œuvres et un bouvier te présente ses bœufs, pourquoi Dieu a préféré les bœufs du bouvier aux fruits du cultivateur?
Mais
Dieu m'a expliqué quand on dit que Caïn travaillait la terre, c'est un cultivateur. Mais c'est aussi quelqu'un qui croit que la solution, la construction de sa vie consiste à travailler la terre, les choses de ce monde, le monde matériel, les choses humaines. Il a bâti toute sa vie, il était cultivateur de l'humain. Et la culture des problèmes de ce monde, le travail de la terre qui n'est que poussière, ne donne rien qui plaise à Dieu. C'est pas le paysan qui est décrié par Dieu, mais c'est le côté, celui qui compte sur la terre, c'est-à-dire sur notre humanité vile, pour s'en sortir. Il fouille la terre. Il compte sur son labeur. En fait, les fruits de la terre, là, représentent un peu les fruits de notre humanité. Le produit de ce que nous sommes humainement. Alors que les animaux élevés sont des créatures de Dieu. Il y a le souffle de vie dedans. Ils ont une âme. Ils ont un sang. Et Dieu dit que la vie est dans le sang. Et que le péché, pour être effacé, doit y avoir effusion de sang. Abel a compris qu'en tant que pécheur, comme il a vu que quand ses parents ont péché, Dieu a tué un agneau et fait couler le sang pour les pardonner. Lui, il a obéi à la volonté de Dieu. Il a mangé l'arbre de la vie en allant faire des sacrifices, il a compris qu'il vaut mieux donner la vie, le sang, ces animaux à Dieu, que le produit de son labeur, de son intelligence et de son humanité. Il a vécu par l'esprit alors que Caïn a vécu par la chair. Et comme ça arrive toujours, ceux qui vivent par la chair se sentent toujours menacés par ceux qui vivent par l'esprit. Ils sont jaloux, ils sont furieux de voir que pendant que lui souffre sur la terre, l'autre voit ses animaux grandir dans la grâce et les donne à Dieu. Et Dieu préfère encore ça. Pourquoi Dieu va préférer ça? Il essaie de tuer celui qui vit par l'esprit. Parce que Caïn voulait être justifié par ses grandes œuvres et labeurs, alors que Abel s'est justifié par sa foi dans la méthode de Dieu, par l'arbre de la
vie.
Et on voit la même bataille entre Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est le produit de la chair, c'est le produit de la méthode humaine. Abraham et sa femme ont fait une stratégie humaine pour essayer de créer l'enfant de la promesse. Dieu dit ça, ça te concerne. Moi, voilà ce que je fais, c'est Isaac.
Abraham podo o sara po ye dele o ye nu apasa me bo ji o vi apasa me ton o ro vi pagbe ton ne mama ro nde ka yen fi en we son me we no wa e mi ton mi na bloti me na.
Une fois encore, Dieu dit: l'enfant de la chair ne peut pas cohabiter avec l'enfant de l'esprit, parce que l'enfant de la chair persécutera toujours l'enfant de l'esprit. Abraham chasse l'enfant de la chair pour que vive l'enfant de l'esprit. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Abraham est le père de la foi. En tant qu'enfant de Dieu, donc héritier d'Abraham, en tant qu'homme de foi, nous avons les deux enfants. Nous produisons les deux descendances. Nous avons des Abel et nous avons des Caïn dans notre vie. Nous avons des Isaac et nous avons des Ismaël dans notre vie. Les Isaac, c'est la chose que Dieu nous a fait au bon moment, à sa manière, par sa pure grâce, ce n'est pas nos œuvres. Et souvent, ces choses-là nous donnent l'impression de venir un peu en retard. Elles viennent au dernier moment, elles sont mille fois plus douces et plus faciles que les premières. Mais dans notre impatience, avant que les Isaac n'arrivent, nous sommes déjà allés nous prostituer avec Satan, prendre des domestiques qui sont des démons de Satan, pour coucher avec eux spirituellement, c'est-à-dire en termes de choix, et fabriquer une série de projets, de choix, de mariage, de choses que Dieu n'a jamais demandé. Et nous croyons que ah, c'est Dieu qui nous a bénis jusqu'au jour où Dieu dit: petit, ça là c'est Ismaël, il faut lui demander de partir. Bon, Mozak arrive. Ne peut personne ne peut se justifier par ses œuvres, c'est-à-dire par ce qu'il fait. On ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas réussir avec Dieu, on ne peut rien avoir qu'il plaise à Dieu parce qu'on est fort.
Mais debout si on
la seule chose qui plaît à Dieu, c'est l'œuvre de Christ à la croix. La seule manière de plaire à Dieu, c'est de ne compter que sur l'œuvre de Christ à la croix et d'aller puiser toutes nos forces, toutes nos idées, toutes nos paroles, toutes nos actions dans cette œuvre-là. Quel que soit qui tu es, si ton cœur sait que la seule chose qui compte, c'est d'aller à la croix et de vivre de ce qui découle de la croix, tu plairas à Dieu et tu auras toutes tes bénédictions cachées en Christ.
Mais de boude a yon, a tu no de a clous ou a conche mina modakbe yon, a na dupe, a na dupe, a so dakbe le Christ ou a mele.
Mais chaque fois que tu essaies de réussir par tes stratégies, par tes projets, par tes forcing, c'est comme si tu crois que tu peux faire mieux plus vite que la croix. Donc tu veux dire que Dieu là, il s'est fatigué à la croix, toi tu peux faire plus vite. Il va croiser les bras et te laisser faire plus vite que lui, il va voir.
Il boit avec fidio fidia. Ni non dile, à camoro honre, mi tombe lile, mi tombe chemina quo brado, bibojo a clouzou au dos. Maura note, mon de toi, coupe fidio, to fidia note de disande, au retour la faute.
Donc tous les jours, tu as le choix.
Aïe, on peut, à l'autre.
Est-ce que tu prends le chemin de la connaissance par toi-même de ce qu'il faut faire?
Anaziali, nous nous tombe, et nous nous soucis, nous nous sommes liés à Dazia.
Ou bien tu cours dans la parole de Dieu pour prendre ce que Dieu a dit de faire.
Alors, Jonaka, son bébé, au bébé, au tombe, au sol.
Mais tu ne peux pas courir dans la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Et c'est ça l'importance de ce genre d'enseignement. C'est ça l'importance des moments où tu médites personnellement la parole de Dieu.
Et
c'est là où il dira à Josué, médite la parole jour et nuit.
Et
passe ton temps à méditer la parole. Même si la nuit tu te réveilles et puis tu as mal au ventre, c'est pas le moment de commencer à dire mais où est tel médicament? Non, en même temps, qu'est-ce que Dieu a dit? Impose-lui les mains, prie, déclare que. C'est-à-dire, même si tu es en train de dormir, on te réveille avec un problème. Ton réflexe, c'est la parole de Dieu. Jour et nuit, la parole de Dieu. Mets en pratique tout ce qui est écrit dedans. Parle là, qu'elle ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ne dis jamais rien de contraire à ce qui est écrit. Ne dis que ce qui est écrit. Dieu dit que le faible dit je suis fort. Donc quand tu es faible, tu ne dis pas que tu es faible, tu dis que tu es fort. C'est pas que tu mens, mais tu confesses, tu prophétises que tu es fort. Tu dois connaître la parole par cœur pour pouvoir en temps réel la sortir. Si tu la mets en pratique, si tu l'écoutes et que tu la vis, tu ne peux qu'être béni. Parce qu'à ce moment-là, la parole est en toi et de l'intérieur par sa puissance qui agit au-dedans de toi. Il peut faire infiniment plus que tu ne peux demander, imaginer. Quand tu consommes la parole, c'est que tu as mis la parole en toi. Or, la parole, c'est Christ. Donc, c'est que Christ est en toi. Quand Christ est en toi, il est comme un chauffeur qui prend le volant de ta voiture. Au lieu que tu pries, que tu jeûnes pour que Dieu t'envoie la bénédiction, Christ qui est à l'intérieur de ta vie conduit ta vie dans la bénédiction. Comme ce n'est pas toi qui conduis, même quand tu dors, même sans effort, tu vois que tu es en train d'avancer vers la bénédiction. Parce que Christ est au volant de ta vie. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois donc lui donner ta vie. Si quelqu'un l'a passé, on va le faire tout à l'heure. Et ensuite, tous les jours, à chaque seconde, ne réfléchis jamais par toi-même. Ne fais jamais ce qui semble bien ou ce qui semble mal. Fais ce que la parole de Dieu a dit de faire. Mange l'arbre de la vie. Et tu jouiras avec abondance de la vie. Parce que telle est la volonté de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229-61-44-44-44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.